Je vous remercie de m'avoir invité, mais quand j'ai sollicité certaines sœurs de chez vous sont venues en Bretagne, ou peut-être Père Bernard quand je l'ai vu à Béthanie, j'ai eu l'imprudence de dire bah, oui, j'aimerais bien aller vous voir. Quoi. Mais apparemment, c'était pas prévu que je donne un enseignement. Moi, je pensais de venir, j'allais me faire inviter, ça allait être sympa, pas travailler, et voilà, quoi, recevoir comme les belges savent recevoir, et voilà. Bon. En tout cas, je suis heureux d'être parmi vous, et pour tout dire, l'enseignement, il a déjà commencé hier soir, il a continué ce matin, et on va le poursuivre aujourd'hui, d'une manière un peu plus structurée, parce que c'était un badron au pur, on va dire. Hein. Je vais essayer de traduire plus qu'un enseignement, alors quand on parle d'enseignement, il va nous donner révéler les arcanes de tel ou tel mot dans leur sens hébraïque, tout ça. Rien de tout ça, je suis un ignorant. Il y en a d'autres qui savent le faire et ils le font très bien. Moi, je vais vous parler de comment nous vivons là-bas à Saint-Denis notre foi. Je vais me servir, parce que comme je vous l'ai dit, j'étais ignorant, donc je me sers d'un livre pour un peu structurer ce que je souhaiterais vous dire. Nous allons parler, si vous le voulez bien, de ce qu'on appelle dans la tradition catholique de l'oraison. Dans la tradition orthodoxe, on parlera de méditation, mais le sens de méditation n'est pas le même dans la tradition catholique, pas tout à fait le même, donc on parle d'oraison. L'oraison, vous savez déjà tous de quoi il s'agit, c'est se faire silence dans son cœur, soit par le moyen de la prière de Jésus ou de toute autre formule, et ou simplement se maintenir dans le silence pour entrer, se mettre dans la présence de Dieu. Alors, on va voir que ça paraît tout simple et facile, et vous pourriez vous dire, mais bon, ça va, on connaît, hein. Et maintenant. Et là, et maintenant, il n'est pas certain que nous ayons la disposition intérieure qui soit vraiment adaptée pour cela. La première chose, c'est que nous faisons cela pourquoi ? Parce que nous croyons qu'une technique pourra nous y aider. Ce matin, on a médité, c'était un moment vraiment profond avec Dominique et Père Bernard. On a récité des psaumes, on a pris un temps de méditation, et c'est vrai que c'est un temps de... On se met en présence de quoi ? De la présence de Dieu, certes. Mais il y a quelque chose qui nous motive. Est-ce que nous avons conscience que de l'immensité de l'amour de Dieu. De cet amour qui est incommensurable, fou. Un amour qui ne juge jamais. Un amour qui nous attend. Un amour qui souffre de nous attendre. Et ça peut paraître paradoxal de dire ça à propos de Dieu, mais qui désespère de nous attendre. Dieu ne désespère pas. Mais tout de même, le mystère de l'amour, c'est que cet amour est tellement grand qu'il s'est incarné pour venir jusqu'à nous. Parce que l'humanité qui progressait, on avait pour des millénaires et des millénaires à progresser très péniblement dans une obscurité, et voyant cela, le Seigneur est descendu. Il s'est fait chair. Il s'est fait homme. Mais il ne s'est pas fait homme en devenant un prophète qui allait nous délivrer un message, comme tous les grands fondateurs de religion, comme tous les grands prophètes qui ont été envoyés. Il est venu lui-même. Mais la différence, c'est que quand il prend sa carte dans l'humanité, il prend l'humanité en lui. Il épouse l'humanité. Mais l'humanité, c'est un mot très général. Il va épouser l'humanité de chacun, de chaque homme. Et cela depuis l'aube des temps jusqu'à la fin des temps. Il va se faire homme dans notre humanité. Vous voyez, nous sommes tous ici, dans cette chapelle. Je vous parle d'un Dieu qui, à ce moment-là, écoute ma parole en vous. C'est extraordinaire, ça. Je parle de lui, et lui, il écoute ma parole en vous. C'est mystérieux. Il s'est fait si petit, si pauvre. Et on aura l'occasion de revenir peut-être, mais le temps est court. Le temps d'un enseignement, c'est court. Mais on aura le temps de revenir sur cette notion de pauvreté, qui est une des clés essentielles du mystère de l'amour. Et Dieu vit en nous toutes nos émotions. Il accepte de chuter avec nous, ou plutôt de nous accompagner. Il ne chute pas avec nous, Dieu ne chute pas, mais il accepte de nous suivre même jusque dans notre péché. Et il attend que, par ce moyen, nous tournions vers lui et que nous puissions enfin ouvrir notre cœur. Et ce que je souhaiterais vous dire cet après-midi, sous la prière avec la bienveillance de saint Athanase et de saint Amand, j'aurais dû amener la relique de saint Amand.
Ah oui.
Et oui. Quand j'ai dit ça à Carbener, j'ai vu qu'il y avait une... Et alors il m'a dit, quand on viendra là-bas... Mais justement, j'ai trouvé cet argument pour le faire venir.
Ah, il n'a pas mis ça.
Eh oui. Alors donc, je taquine. Donc, ce que je souhaiterais vous évoquer avec vous aujourd'hui, c'est de découvrir que ce Dieu d'amour est un Dieu intime à nous-mêmes, proche, finalement facile à rencontrer. On a fait de la vie spirituelle, de la vie chrétienne, quelque chose de compliqué. La vie spirituelle, on en a fait comme une sorte d'échelle, il fallait gravir péniblement, échelon après échelon, et c'est un peu vrai, mais dans la réalité, dans l'expérience, c'est pas tout à fait ça. Alors on va essayer de voir comment, dans quelle disposition d'esprit, nous allons entrer dans l'oraison. Pourquoi je vous parle de l'oraison? Parce que l'oraison, c'est ce cœur à cœur, qui n'est pas encombré par le fait d'être occupé à une activité, même si on peut prier et faire de tout une prière, bien sûr. Ce n'est pas un moment où, entre frères et sœurs, nous louons le Seigneur. C'est un cœur à cœur. Et vous savez, dans l'amour spirituel, de l'amour avec le Christ, c'est comme dans l'amour humain. Si on n'a pas ce cœur à cœur avec l'être aimé, eh bien cet amour, avec le temps, se dégradera. S'il n'y a pas ce temps privilégié qu'on va réserver chaque jour à un moment privilégié, eh bien cet amour ne pourra pas grandir. Et cet amour a besoin, pour grandir et nous diviniser tout entier, eh bien que jour après jour, nous puissions nous laisser embraser dans un moment d'écoute, de partage. Et cette notion-là même est quelque chose de très simple. Vous savez, les saints, on ne les rencontre pas chez les théologiens, pas beaucoup, il y a très peu. Chez les évêques, encore moins. Mais chez surtout les gens simples, l'Église en a canalisé quelques-uns parce que ce sont quand même, je parle des évêques, en disant que ça fait mauvais sur le tableau, mais il paraît qu'il y en a plein qui sont en permission en enfer. D'abord, la première chose, est-ce que nous avons cette foi ou cet amour? Parce que cet amour est une puissance incroyable. C'est un amour, comme je vous le disais, qui est à temps de jaillir dès qu'on se tourne vers lui. Est-ce que nous avons vraiment la foi que lorsque nous faisons un peu de silence, eh bien, cet amour aussitôt se manifeste en nous. Je ne dis pas qu'il faut le sentir, surtout pas. Il ne s'agit pas d'expérimenter d'une manière physique cet amour. Non, il s'agit de se laisser pénétrer, absorber dans cet amour. Alors, la foi et la confiance, c'est vraiment la base de cette oraison. Je vais lire, si vous permettez, quelques passages de ce petit ouvrage qui s'appelle « Du temps pour Dieu ». Je vous parlais tout à l'heure du temps que l'on réserve à ce moment-là, un temps au quotidien. La première disposition est la plus fondamentale pour l'oraison, c'est une attitude de foi. Comme nous aurons l'occasion de le redire, la vie d'oraison comporte une part de combat. Et dans ce combat, l'arme essentielle, c'est la foi. Quand tu parles de combat, c'est que, évidemment, rester immobile, sans penser dans l'oraison, ça ne vient pas tout de suite. Il y a les pensées, on est dérangé, Et il faut, ça peut nous décourager de dire « j'ai essayé, ça ne marche pas, quoi, c'est pas fait pour moi ». Il y en a qui ont ce charisme, pas pour moi. Erreur. Tous nous sommes appelés, d'une manière ou d'une autre, à pratiquer l'oraison. Et la disposition intérieure, les facilités qu'on peut avoir ou non, ne comptent pas. Vous entendez? Ça ne compte pas. Car la simple attitude, le désir, la confiance et la foi en cet amour suffit. Certes, j'aurais le sentiment parfois, dans le petit quart d'heure que je vais prendre, au début, il ne faut pas trop en faire, et j'aurais le sentiment d'avoir une méditation, une oraison, eh ben, qui ne marche pas. Parce que ça ne marche pas parce que j'ai été dérangé 100 fois par toutes sortes de pensées, par des préoccupations, j'ai été assailli, et puis j'étais pas bien sur mon petit banc, il va peut-être falloir que je prenne le... Enfin bref, on s'en compte, on s'en met. Mais Dieu sait. Il sait très bien ce qu'on peut faire. Il nous connaît quand même mieux que nous, hein, parce que nous, on ne se connaît pas. J'aurais, je ne sais pas si j'aurai du temps pour tout ça, on n'ira pas au bout de tout. Évidemment, je vous propose aujourd'hui de juste commencer à parler un peu de ça. Mais il est certain que, dès le départ, je sais, j'accepte de ne pas savoir méditer, de ne pas pouvoir, de ne pas me sentir dans une vraie disposition super zen, et de laisser l'esprit agir, laisser l'esprit me ramener paisiblement à chaque fois. Je ne fais pas de soucis si je dois revenir sans cesse, me tenir dans la présence. Peut-être que je vais tenir 5 secondes, puis je vais être plus, quelle importance. Peut-être que je vais tenir plus longtemps. Peut-être que, après, il ne s'agit pas de se sentir dans un état particulier. Il suffit d'être là. Vous savez, quand vous êtes en face de la personne aimée, on ne cherche pas à ressentir l'autre. Est-ce que je le sens bien? Est-ce que je suis là, paisiblement, dans le silence d'une communion qui se fait d'elle-même? Donc l'oraison, c'est ainsi qu'elle doit commencer pour nous. Et même si j'ai le sentiment, pendant un quart d'heure, 20 minutes, de m'être battu et de me dire, mais ça, à quoi ça sert? Je suis tellement mieux à réciter les psaumes avec les autres, là, c'est pas fait pour moi. Non, l'oraison est essentielle dans la vie spirituelle, et nous le verrons plus loin. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe lorsque, malgré cette oraison un petit peu chahutée, c'est qu'à chaque fois, c'est les efforts que je fais pour me maintenir, mon cœur s'ouvre sans que je me rende compte. Et le cœur n'a pas besoin de s'ouvrir beaucoup parce qu'on n'en est pas capable. Mais le fait qu'il s'ouvre un petit peu, aussitôt la lumière de l'amour entre en nous. Elle s'infiltre en nous, presque à notre insu. Et il va y avoir cette rencontre mystérieuse, indéfinissable, que nous n'allons pas sentir. Et à ce stade, c'est nécessaire de ne pas le sentir. Il va y avoir ce travail de la grâce qui, peu à peu, va nous amener à une oraison beaucoup plus profonde, beaucoup plus facile. Alors, quand nous nous mettons en prière seuls face à Dieu, ça peut être ici, ça peut être dans sa chambre, dans son oratoire, dans n'importe quelle église, devant une icône, nous devons croire de tout notre cœur que Dieu est présent. Il est là pour moi. Il m'attend. Il est là pour moi. Vous vous rendez compte? Ce Dieu, regardez ce Christ ressuscité qui est là. Il est dans mon cœur, il m'attend. Moi, tout seul. Alors tout seul, les autres aussi. Mais il peut, parce qu'il est Dieu, se donner à moi totalement dans une relation unique. Est-ce qu'on a conscience de cette extraordinaire vérité? Quelque chose en nous fait que nous mettons toujours une certaine distance. Il n'y en a pas. Dieu me dit, voilà, je t'aime. Vous savez que le mot aimer, c'est le plus beau mot qu'une langue peut inventer. Le mot amour, le Seigneur le dit, avec ce que Dieu, ce mystère d'amour qui est le principe même de toute vie, de toute la création, il me dit, voilà, je t'aime et je vais t'apprendre à aimer. Vous savez, saint François, qui souffrait de voir tous ces gens qui étaient éloignés de ce mystère de l'amour, lui qui avait été touché en priant devant le Christ de Saint-Damien qui est ici, saint François qui avait tout quitté et qui était l'objet de la raillerie, ce fils de riches marchands qui faisaient la fête avec ses potes, voilà, et qui, à l'époque, quand on faisait la fête, on la faisait vraiment, hein, c'est comme on peut la... ça ne changeait rien d'aujourd'hui, hein. Et voilà qu'il quitte tout ça, personne ne comprend. Mais voilà que saint François, il se met devant l'icône, il est dans ce Christ de Saint-Damien, et dans l'église de Saint-Damien, c'est une grande croix qui est là, très belle icône d'ailleurs, et il prie et dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Et il entend une voix. Il entend une voix. Le Christ s'anime, lui dit, je veux que tu rebaptises mon église. Ah, c'est le thème de mon homélie dimanche dernier, tiens. Ça, c'est vous savez, c'est la petite pub qui s'insère comme ça. C'est sur le site. Alors, mais tout ce que... Et saint François va être touché dans son cœur. Alors, il va comprendre par la suite que c'est pas... Lui, il va commencer à réparer saint Damien. Il va comprendre que c'est de rebâtir l'Église dans son cœur. Et ce, avec sûrement, avec cette vie de l'amour que Dieu nous donne à chaque fois qu'on souhaite le rencontrer. Donc, indépendamment de tout ce que nous pouvons sentir ou ne pas sentir, de nos mérites, de notre préparation, de notre capacité ou non à entretenir de belles pensées, quel que soit notre état intérieur, Dieu est là auprès de nous, nous regarde et nous aime. Il est là non pas parce que nous le méritons ou nous le sentons, il est là parce qu'il l'a promis. Et dans Matthieu chapitre 6, verset 6, retire-toi dans ta chambre, ferme la porte sur toi et prie ton Père qui est là dans le secret. quel que soit notre état d'aridité, notre misère, l'impression que Dieu est absent, voire même qu'il nous abandonne. Parce que le petit moi, il nous raconte des histoires. Hein. Nous ne devons jamais mettre en doute cette espérance aimante et accueillante de Dieu auprès de celui qui prie. Et dans Jean, au chapitre 6, verset 37, il est dit, « Celui qui vient à moi, je ne le jetterai pas dehors. » Bien avant que nous nous mettions en présence, ça c'est intéressant, bien avant que nous nous mettions en sa présence, Dieu était déjà là. C'est lui qui nous invite à le rencontrer. Lui qui est notre Père et nous attend et cherche bien plus que nous le faisons nous-mêmes. Il nous cherche bien plus que nous le faisons nous-mêmes à entrer en communion avec nous. Dieu nous désire infiniment plus que nous le désirons. C'est un scoop quand même, non ? Dieu me désire, Dieu m'attend, Dieu est là, et il multiplie les moyens pour essayer de m'appeler à entrer en communion avec lui, dans sa présence. Et le moment d'oraison, c'est le moment privilégié. Alors vous savez, nous, on aime bien qu'il y ait une réponse, comprendre qu'est-ce que ça rapporte, hein, parce que dans la vie, dans l'amour humain, c'est ça, quoi. Je veux bien t'aimer, mais il faut quand même que tu aies une... Le temps de l'amour où on se donne d'une manière sans rien attendre, c'est pour plus tard. Au début, c'est normal, c'est comme ça. Mais Dieu, lui, voilà, nous invite, il se donne totalement à nous. Et il nous invite à nous rencontrer. Il est là. Vous imaginez ça ? Le Dieu est là, il est là. Et il nous dit, vous m'écoutez, mais au fond, notre cœur est déjà... Quelque chose de sa grâce et de son amour descend dans notre cœur. Maintenant, pas tout forcément tout à l'heure, ou ce soir, ou demain, quand je me mettrai en oraison, déjà, dans cette écoute, il y a cette rencontre qui s'effectue. D'abord, il a dit, lorsque deux ou trois sont venus en mon nom, on est combien là ? 20 ? À la louche. Et donc, déjà, laissons-nous saisir par ce mystère. Laissons-nous saisir par sa présence. Et on a prié Saint Athanase, Saint Amand et tous les autres saints qui sont nos pères. Nous les avons invoqués, eux aussi sont présents. Et eux aussi intercèdent pour que ce moment tout simple où nous sommes en train de parler de cet amour puisse devenir une réalité. Que notre conscience, je parle de cette conscience profonde, spirituelle, soit soudain saisi par cette réalité-là. Quelles que soient nos difficultés, nos résistances, nos objections, nous devons croire fermement que tous, sans exception, savants ou ignorants, justes ou pécheurs, personnes équilibrées ou profondément blessées, sont appelés à une certaine vie d'oraison dans laquelle Dieu se communiquera à eux. Des fois, je peux me sentir pécheur, dire, oh, mais je ne suis pas prêt, quoi. Je ne peux pas aller... C'est justement l'inverse, quoi. Parce que Dieu, il aime ça, les pécheurs. Il les traque, il les cherche. Et nous, on se plante. Les péchés, c'est comme Adam au paradis. Parce que quand le Seigneur, il est descendu au paradis, alors qu'Adam et Ève, ils avaient fait la... ils avaient touché à l'arbre qu'il ne fallait pas, voilà, au fruit défendu. Quand le Seigneur vient, se balade à la brise du soir, on sent une soirée tranquille, paisible. C'est très bien qu'Adam et Ève, ils ont commis une faute grave. Mais c'est pas si grave que ça, après tout. Lui, il vient. Et alors, Adam et Ève font exactement ce que nous faisons, nous, tout le temps, on se planque. Alors que lui, il dit, mais oui, je sais que tu as péché. Je sais que vous êtes fait berner par l'autre qui a pris l'apparence du serpent, qui est normalement le symbole de la sagesse. Il vous a vraiment roulé dans la farine, quoi. Et moi, je le sais. Je sais bien que ma créature, elle est faible, elle est fragile. Mais c'était le moment où, hop, ça aurait pu tout changer si Adam et Ève avaient dit. Voilà, au lieu de Dieu de dire, mais c'est elle, là. L'autre, c'est le serpent. Tout le monde. Et des justifications comme ça, on en a plein notre musette. Et Dieu, lui, se promène. Vous l'entendez pas? À la prise, c'est pas tout à fait la prise du soir, mais c'est un après-midi d'automne tranquille. Et il vient là pour lui dire « alors ». Et nous avons souvent, réfléchissons à cette réalité-là, nous sommes comme Adam et Ève au paradis. On se cache. On se cache parce que quelque chose en nous a peur de la lumière, a peur de la vérité. Parce que c'est vrai, plus nous allons faire oraison, comme on dit, et plus cette oraison sera comme un miroir. Nous allons devoir découvrir ce que nous sommes et devoir accepter ce que nous sommes dans notre profondeur. Et l'amour de Dieu, lui, viendra et étendre sa consolation sur tout cela. Et c'est comme ça que peu à peu, nous deviendrons lumière. Il n'y a pas, donc il n'y aura pas vraiment de fécondité spirituelle dans la pratique de l'oraison si nous n'avons pas cette foi. Cette foi, il faudra sans cesse la redynamiser, sans cesse triompher du doute, sans cesse dépasser tout ce qui, dans notre humanité, a tendance à nous limiter ou à douter. Et il faut que cette foi soit celle d'un enfant. On parlait des gens simples, mais les gens simples sont souvent avantagés sur les intellos que nous sommes devenus dans la culture où tout est forcément compliqué, où tout doit être analysé, quantifié, complexifié, etc. Dans ma pastorale, si vous saviez comme je suis admiratif parfois quand des âmes simples ont cette faculté de s'ouvrir beaucoup plus facilement que nous à la réalité de cette présence de Dieu. Donc il est dit que cette vie d'oraison, qui est la source pour nous d'une infinité de biens, elle nous transforme intimement, nous sanctifie, nous guérit, nous fait connaître et aimer Dieu, nous rend fervents et généreux. Vous avez remarqué, ça rime en plus. Rend fervents et généreux dans l'amour du prochain. Plus nous sommes touchés par cet amour qui se communique à nous, qui transforme nos sentiments, qui élève nos émotions, mais dans le sens où ces émotions ne deviennent pas encombrantes pour nous, eh bien, elles nous rendent compatissants, aimants à l'égard de notre prochain, quel qu'il soit. Qui s'engage dans la vie d'oraison doit absolument être sûr, du moment qu'il persévère, et on va en parler, il recevra tout cela et bien davantage. Même si nous avons parfois l'impression du contraire, que la vie de prière est stérile, qu'on piétine, que faire oraison ne change rien, même s'il nous semble ne pas constater dans notre vie les fruits escomptés, il ne faut pas nous décourager, mais rester convaincus que Dieu maintiendra sa promesse, comme il est dit dans Luc au 11e chapitre, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve et à qui frappe on ouvre. » Donc c'est de persévérer dans cette confiance-là. C'est absolument indispensable. C'est une tentation fréquente que d'abandonner l'oraison parce qu'on n'en voit pas assez vite les fruits. Ben oui, on est toujours pressé, nous, il faut que ça marche vite, quoi. Nous sommes dans un siècle où il faut être performant, où on veut obtenir tout de suite. Qui persévérera dans la confiance recevra infiniment plus ce qu'il ose demander ou espérer. Donc c'est une tentation fréquente que d'abandonner l'oraison parce qu'on ne voit pas assez vite les fruits. Cette tentation doit être immédiatement repoussée par un acte de foi en la promesse de Dieu qui s'accomplira en son temps. Dieu sait comment ça va fonctionner pour nous. Et ça, on ne peut pas le savoir. On ne peut que l'accompagner au fur et à mesure que cela nous sera révélé. On ne peut pas contrôler. C'est seulement dans cette synergie, dans cette communion entre la volonté de Dieu et la nôtre, que nous sera révélé ce qui doit être pour nous. Parce que ce que nous allons découvrir n'appartient pas au connu, n'appartient pas même pas à ce que je suis en train de vous lire, à ce que vous êtes en train de comprendre ou ne pas comprendre. Comme saint Paul l'a dit, ce qui nous sera révélé et qui va monter au cœur de l'homme est absolument inconnu. Aucune sagesse ne peut révéler ce que, dans cette communion intime avec le Seigneur, aucune sagesse ne peut en parler, parce que c'est vraiment une révélation. Le Seigneur lui-même l'a dit, je te remercie, Père, Créateur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et de l'avoir révélé aux tout petits. Il faut apprendre à être tout petit. L'oraison, c'est l'école où nous allons devenir tout petits. C'est l'école où nous allons découvrir le mystère de la pauvreté au sens spirituel du terme. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voyez le laboureur, il attend patiemment le précieux fruit de la terre jusqu'aux pluies de la première et de l'arrière-saison. Soyez patients vous aussi, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Alors l'avènement du Seigneur est proche, ce n'est pas d'attendre que le Seigneur, le retour, ça va être demain matin, mais c'est cet avènement dans notre cœur, bien sûr. Alors, on va parler plus précisément de la fidélité et de la persévérance. Le pire de notre difficulté, c'est de persévérer. Surtout si c'est compliqué. Et c'est fou, vous savez, je n'ai pas le temps. Vous savez à quelle heure je me lève? D'abord à quelle heure je me couche. Oui, mais ce n'est pas pareil, je me couche parce que j'ai autre chose à faire, n'est-ce pas? Il y a tellement de choses qui nous paraissent essentielles dans notre vie qui nous empêchent justement de nous mettre en prière et de méditer un peu tous les jours. La persévérance et la fidélité dans cette persévérance, ce sera vraiment, il faudra demander tous les jours la grâce de Dieu pour pouvoir la faire, jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Et jusqu'à ce que même nous ayons le désir que nous soyons heureux de retrouver. Quand on aime sa bien-aimée ou son bien-aimé, on se réjouit du moment où on va le retrouver ou la retrouver dans l'alcôve. Et on attend ce moment-là. Ou alors comme le petit renard du petit prince de Saint-Exupéry, qui se réjouit d'avance d'avoir à rencontrer le petit prince. Parce qu'il a ce désir de ce moment de partage, de ce moment d'amour. Eh bien, c'est aussi simple que ça. Et si nous, dans l'ordre humain, nous avons ces sentiments-là, ces désirs-là, combien plus nous devrions les avoir pour cette rencontre intime avec Dieu qui résume en tout le mystère de tout ce que nous attendons et qui peut nous donner tout ce que nous ne pouvons même pas imaginer. Fidélité, persévérance. Qui s'engage dans la vie d'oraison doit viser en premier lieu à la fidélité. C'est déjà vrai dans l'ordre humain, hein, c'est déjà dur d'être fidèle. Hein. Je ne parle pas de la fidélité conjugale, je ne vous permettrai pas de mettre en doute votre fidélité, mais la fidélité a toutes sortes de choses, d'engagement. Ça demande un effort. Ce qui importe d'abord, ce n'est pas que la prière soit belle et réussie, nous l'avons déjà dit, riche de pensées, de sentiments profonds, vous savez quand... sentiment d'adoration, d'humilité, ça accompagne notre oraison. Si je puis, mais qu'elle soit persévérante et fidèle, si je puis m'exprimer ainsi, il ne faut pas viser d'abord à la qualité de la prière, il faut viser avant tout la fidélité dans la prière. Je peux peut-être mal méditer, mal faire oraison. Ce n'est pas important, nous l'avons déjà dit, c'est la fidélité. Tous les jours, si je me cale un temps, et vous savez, la discipline, ce n'est pas compliqué, hein. Si on n'est pas rigoureux par rapport à ça, on ne fait rien. Et je vous donne un conseil, si vous voulez vraiment commencer une vie d'oraison, allez en parler à votre professeur, au prêtre, pour qu'il y ait un témoin, pour que je me sente engagé en ça, que je me sente aidé. Et que quand on rencontre son confesseur ou le prêtre de sa paroisse, et qu'il. Alors t'en es où dans ton. Ah, la raison, j'ai essayé, mais au bout de 15 jours, j'ai laissé tomber, quoi. Puis j'ai pas le temps avec les gosses, ma femme, le boulot, le chien aussi. On va chercher n'importe quel. Et là, il me dit, et c'est là, c'est le rôle, Père Bernard, de vous dire, mais c'est pas grave, le Seigneur, il sait que c'est difficile. Mais tu sais, c'est tellement important. Réessaye avec vous, tu verras, tu auras des grâces, de s'entendre encourager comme ça. Si jamais il ne fait pas comme ça, vous lui remontez les potels en disant, mais dis-nous, tu ne fais pas ton boulot là. Dans les homélies, alors, est-ce que vous avez commencé à méditer tous les jours? Silence. Alors, fidélité et persévérance. Un temps d'oraison pauvre, aride, distrait, relativement bref. Relativement bref. Mais que l'on prend fidèlement tous les jours, vaut mieux et sera infiniment plus fécond pour notre avancement que des longues prières enflammées faites une fois de temps en temps quand on est porté par les circonstances. Quand ça nous change, quoi. En ce qui concerne la vie d'oraison, le premier combat à vaincre après la décision de s'y mettre sérieusement, parce qu'il faut prendre un moment la décision. Oui, tiens, l'évêque Marc nous a parlé de ça, ce serait peut-être intéressant d'essayer. Ça, c'est pas une décision, ça. Si vous partez comme ça, vous êtes sûr que ça ne durera pas longtemps. Si vous dites, ah, oh, ça quand même, ça a l'air important, quoi. J'écoute ce pauvre homme qui est venu du fin fond de la Bretagne, c'est quand même fatigant pour lui, ce serait bien qu'il n'ait pas parlé quand même pour dans le désert, quoi. S'il y avait au moins quelques-uns d'entre nous qui s'y mettent vraiment, mais pour ça, il faut que je prenne une décision. Alors comme je vous l'ai dit, la décision, je ne la prends pas tout seul. Je peux consulter ma femme, mon mari, mon frère, ma sœur. Il faudrait que je m'y mette, aide-moi à persévérer. Je vais vous faire une petite confession. Commencez pas à espérer que c'est une confession qui va... Non, un truc très simple, hein, c'est bien. Mais quand j'ai besoin d'être constant dans mes rendez-vous, etc., eh bien, alors j'ai de la chance, j'ai une secrétaire qui elle, se charge de me rappeler, et quelquefois, elle me rappelle en disant, écoute, t'es pas sérieux. Ah oui, c'est compliqué quand même. T'es pas sérieux parce qu'il y a quelqu'un qui attend que tu lui répondes au téléphone et ça fait déjà 2 jours que tu dois le faire. Eh bien, j'ai besoin d'entendre ça. Et j'ai besoin de me dire, mais c'est vrai, oui, c'est vrai, j'ai oublié. Et c'est tout juste si elle ne me dit pas, tu le fais tout de suite. J'ai l'impression d'être un gamin qui vient de prendre me rappeler là. Et c'est justifié. Parce que nous avons besoin de nous aider les uns les autres pour ça, quoi. Parce qu'il y a des choses qui sont parfois essentielles, et que commande la charité, et alors voyez dans toutes sortes de choses, et puis quelquefois, j'y vais à reculons, parce que non, ça va être compliqué, c'est risque, ouais, je sais, c'est un cas un peu difficile, alors je ne m'y précipite pas, quoi, hein, en effet, comme ça. Et pourtant, et j'ai besoin qu'on me rappelle. Donc il faut, quand on prend une décision, et nous avons, pour nous maintenir dans cette décision, de nous aider les uns les autres. Vous verriez que si vous étiez 5, 6, 7, 8, 10, 20, je peux rêver, à décider de pratiquer l'oraison, et si ensemble, tu dis, allez, on va essayer. Toi, tu peux le faire à quel moment? Telle heure? Bon, alors on va essayer de caler ça, quoi. C'est sûr qu'on va avoir du mal. Mais si on s'entraide, alors au début, ouais, j'ai essayé une semaine, mais ça fait 15 jours que je ne le fais plus. Vas-y, essaye encore. Nous, on a du mal, mais tu vois, moi aussi, j'ai eu des moments où j'y suis revenu. Voilà, c'est ça la vie d'une vie communautaire aussi. Ce combat n'est pas facile parce qu'il y en a un qui ne veut pas ça. On connaît tous, hein. Le curé d'Ars l'appelle Grappin. Et c'est le diable. Le démon, lui, le démon cherche à nous détourner à tout prix de la fidélité à l'oraison, tant il en connaît l'enjeu. On raconte une histoire, c'est le diable en chef qui envoie des diablotins pour essayer de détourner les hommes de Dieu, évidemment. Alors, je me souviens plus, il y a deux histoires différentes, mais il y en a un, voilà, ils reviennent de leur mission, ils vont rendre compte, et on a tout essayé de leur faire croire que Dieu n'existe pas, de leur faire croire que le diable même n'existe pas, mais finalement, ils croient toujours, on n'arrive pas à les détourner vraiment, quoi. Et il y en a un troisième qui est un petit malin et étoilant. Et lui, il se dit, mais je leur ai dit qu'ils avaient le temps. Et c'est redoutable, ça. Ce n'est pas vrai, nous n'avons pas le temps. Il y a urgence, chers frères et sœurs. Demain, on est mort. Alors, je ne suis pas en train de prophétiser, là, rassurez-vous. Hein. Mais demain, sûrement, on sera mort. Et nous sommes tellement préoccupés par toutes sortes de soucis. Il y a, nous lisions pendant les vigiles et les matines, des passages des fioriti de la vie de Saint-François. Les fioriti, c'est des petites fleurs, de tous les côtés un peu miraculeux. Et il y avait un passage où on raconte qu'il y avait frère Léon, Fra Leone, et avec Saint-François. Les frères Léon, ils dorment, ils sont tous les deux, ils dorment, il a un songe. Et quand il se réveille, il raconte le songe, il dit, voilà, j'ai fait un songe curieux. Je voyais, nous étions au bord d'une rivière, il y avait un courant comme ça, très fort. Il y a des frères qui essayaient de traverser, mais ils étaient tous chargés, plus chargés les uns que les autres. Et alors, certains, à peine entrés dans le fleuve, étaient emportés. D'autres arrivaient jusqu'à la moitié, mais étaient emportés aussi. D'autres arrivaient presque de l'autre côté du bord, mais de toute manière finissaient par être emportés et se noyer. Et puis d'autres, au contraire, qui n'avaient rien, qui étaient légers, traversaient aisément et arrivaient de l'autre côté très facilement. Saint François le dit, ben voilà, cette rivière, c'est tous les soucis du monde, c'est l'esprit du monde. C'est toutes les préoccupations du petit moi, tout ce qui peut caractériser nos passions, l'attachement, toutes les puissances de l'âme qui n'ont pas été peu à peu maîtrisées par la grâce divine. C'est évident que si nous ne nous déchargeons pas d'une certaine chose, si on ne se libère pas, et là il s'agit de liberté, de se libérer d'un peu de son temps, eh bien, on ne parviendra pas. Même si on prend une décision, on ne parviendra pas à vraiment persévérer. Si nous comprenons l'enjeu, si nous comprenons que l'oraison, la méditation est fondamentale dans notre vie chrétienne, alors on doit vraiment se réveiller et faire ce qu'il faut pour vraiment, avec la certitude, encore une fois, que Dieu me donnera tout ce qu'il faut pour ça. Et que ma foi, elle, doit être totale en sa bienveillance et en son amour. Retenons ceci. Alors les démons, oui. Je vais revenir à ce fameux démon. Le démon cherche à nous en détourner à tout prix. Il veut nous détourner de la fidélité à l'oraison, tant qu'il en connaît l'enjeu. Qui est fidèle à l'oraison lui échappe. Oui, parce que même si nous continuons d'être pécheurs dans la vie, etc., peu à peu quelque chose va, si nous revenons à cette prière, peu à peu, la grâce va nous transformer et le démon sait qu'il aura de toute façon perdu d'avance. Lui échappe, ou du moins est sûr de lui échapper totalement un jour. Retenons ceci pour le moment. Mieux vaut une oraison pauvre mais régulière et fidèle que des moments de prière sublimes mais épisodiques. Vous connaissez tous peut-être ce proverbe chinois qui dit que la goutte qui tombe peu à peu, sur la pierre, finit par la transpercer. On imagine que ce n'est pas une eau calcaire, hein, sinon ça va faire une stalactite, une stalagmite plutôt. Mais si vous jetez dessus l'équivalent de la semaine en seau d'eau, ça ne percera jamais. Mais c'est un petit peu ça au niveau de la prière. C'est la fidélité et elle seule qui permet à la vie d'oraison d'avoir toute sa merveilleuse fécondité. Je m'arrête là pour l'instant. Ça fait combien de temps que je parle, hein? Longtemps sûrement.
Je suis rentré dans trois quarts d'heure.
Voilà. Alors on va faire une petite pause. Enfin une petite pause. Je vous propose, en guise de pause, de faire justement un temps de silence. Un temps d'oraison. 10 minutes, pas plus. Puis ensuite, je reprendrai, peut-être pas trois quarts d'heure, mais j'aborderai un autre principe qui est fondamental, qui est ce qu'on appelle la pureté d'intention. Alors, nous allons parler de la pureté d'intention. Qu'est-ce que ça a à voir, la pureté d'intention? Qu'est-ce que ça veut dire, ce mot? Après la foi, donc on a vu l'importance de la foi, on a vu l'importance de la fidélité, de la persévérance, nous allons parler de la pureté d'intention. Une attitude intérieure fondamentale pour qui veut persévérer dans la prière est la pureté d'intention. Jésus nous dit « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu » dans Matthieu 5. « Est pur de cœur celui, selon l'Évangile, non celui qui est sans péché. » Ça va vous étonner, ça, non? Le fait de ne pas être pur, on peut être pur de cœur tout en étant, se sentant pécheur. Et pur de cœur selon l'Évangile, non celui qui est sans péché, qui n'a jamais rien à se reprocher, mais celui qui est animé dans tout ce qu'il fait de l'intention sincère de s'oublier lui-même pour plaire à Dieu, de vivre non pour soi, mais pour lui. C'est-à-dire que dans l'exercice de la prière, de l'oraison, de la méditation, on ne cherche pas un résultat. On ne cherche pas à acquérir quelque chose, des connaissances. On n'a qu'un seul souci, Seigneur, je veux faire ta volonté. Et je ne sais pas ce que tu veux vraiment de moi, mais je veux faire ta volonté. Je veux te servir. J'ai l'intention sincère de m'oublier moi-même pour m'ouvrir à ta sainte volonté. Cette disposition est indispensable pour celui qui veut faire oraison. On doit prier non pour se rechercher soi-même, mais pour se faire plaisir, mais pour faire plaisir à Dieu. Sans cela, on ne pourra pas persévérer dans la prière. Je parle de cette prière profonde, de ce cœur à cœur avec Dieu, de cette rencontre très particulière, qui ne dépend pas de mon expérience, de mes connaissances, si ce n'est de la connaissance de moi qui me sera révélée dans la prière, mais de ce que Dieu va me révéler. Qui Qui se recherche lui-même recherche sa propre satisfaction, abandonnera bien vite la prière quand celle-ci deviendra difficile, aride, ne lui donnera plus le plaisir et les goûts qu'il en attend. Imaginez quelqu'un qui cherche, voilà, qui veut voilà, sentir soudain apaisé intérieurement, sentir dans une respiration ample et paisible un état de quiétude intérieure profonde. Si je cours après ça, eh bien je vais courir longtemps. Je peux l'atteindre. Il y en a qui sont plus ou moins doués, qui savent utiliser les techniques, etc. La technique est utile, bien sûr, mais elle peut être une entrave à cette disposition intérieure. L'amour véritable est pur en ce sens qu'il ne recherche pas son intérêt, mais il a comme unique but de faire la joie de l'être aimé. On est toujours dans ce rapport, dans ce mystère de l'amour. Faire la joie, ma préoccupation, c'est de faire la joie de celui qui m'aime et que je veux aimer. Dans notre prière, tout à l'heure, m'est venue une pensée dans ma prière, dans mon oraison. Cette prière, c'est « Aime-moi, Seigneur. Aime-moi, je veux aimer, mais regarde comme je ne me laisse pas aimer. » Mais même si je ne parviens pas à me laisser aimer, aide-moi, je t'en supplie. Et le Seigneur répond à cette prière toute simple, naïve presque, pas très théologique, aime-moi. Et le Seigneur, et je n'ai que ce désir-là. Comment ça va se faire, ça n'a aucune importance. Ce cœur à cœur simple. Encore une fois, je vous renvoie à simplement deux êtres aimés qui sont là, qui n'ont pas d'autre mot que le mot « je t'aime ». Et de simplement se l'échanger, d'être là, dans l'aura l'un de l'autre, dans la présence de l'un de l'autre. Et on n'est pas dans une sorte d'écoute profonde l'un de l'autre. On ne recherche pas notre joie. On ne recherche pas une satisfaction, je recherche la joie de Dieu. C'est mystérieux ça. Oui, la joie de Dieu parce que le fait, je sais que le fait de me mettre en prière, Dieu, et le ciel tout entier sera dans la joie. C'est mystérieux ça. Parce qu'évidemment que les anges vont se réjouir quand un cœur s'ouvre. Nos pères nous disent, celui qui se repent, le ciel est dans la joie. Mais attention, le repentir, la métanoïa durable, le don des larmes, etc. C'est pour les grands. On va commencer, nous, à jouer dans le cours des petits, si vous permettez. Je ne doute pas que parmi vous, il y ait des orants qui soient, qui peut-être m'écoutent avec beaucoup d'intérêt, mais attendent patiemment que j'ai fini mon discours. Tant il est vrai que les évêques, en général, ça vole pas très haut. Je vous le concède. Mais bon, on m'a demandé de faire renseignement, je le fais. Faire la joie de Dieu. Faire la joie de Dieu. Est-ce que quand on aime, quand on a un peu conscience de cet amour, on n'a pas envie de faire la joie de l'autre? C'est vrai. Est-ce que entre les époux, les épouses, est-ce qu'il n'y a pas ce plaisir de faire la joie de l'autre? Ah, si c'est au cas, ce ne serait pas comme ça. Révisez quand même votre attitude parce que vous allez avoir des problèmes. Faire la joie de l'autre dans des choses très simples. Et ça commence justement dans cette intériorité avec le Seigneur. Le Seigneur, lui, veut me faire ma joie. Mais vous savez, la joie, elle vient d'abord par la paix. On en reparlera un autre jour. Il y a le désir de faire la joie de Dieu. C'est mystérieux, ça. Est-ce qu'on avait pensé à ça? En se mettant en prière, Seigneur, je vais te rendre heureux. On a l'impression que c'est l'inverse qu'il faut faire. Hein? Eh bien oui. Parce que Dieu s'est fait tellement petit, il s'est fait mendiant de notre amour. C'est un tel qui nous parle de cette pauvreté de Dieu, qui s'est fait plus pauvre que tous les plus pauvres d'entre nous, qui c'est ce Dieu qui s'est identifié à notre pauvreté, qu'il a épousée, qu'il a fait sienne. Et ce Dieu d'amour, il nous dit, aime-moi, je supplie. Je te supplie de m'aimer. Je te supplie de me donner la joie de pouvoir t'aimer. C'est mystérieux, ça. Mais là est le vrai sens de l'amour de Dieu. Et là, on entre dans le mystère de quelque chose qui va changer radicalement notre façon de prier. Même durant tous les autres offices. Parce que derrière ça, peu à peu, nous allons voir que ce Dieu, qu'on a toujours vu comme un Dieu tout-puissant, qui juge parfois, est au contraire un Dieu qui me supplie de l'aimer, qui me supplie de m'ouvrir à son amour. Et ce ton de raison, il m'appelle, aime-moi. C'était la prière que j'entendais dans mon cœur. C'est moi qui la disais. Je ne me suis pas rendu compte que c'est lui qui me disait ça. Aime-moi, je t'attends. Cette pureté d'intention est exigeante, mais elle est aussi très libératrice et apaisante. Qui se recherche lui-même sera vite découragé et inquiet quand la prière ne va pas. Qui aime purement Dieu ne se trouble pas si la prière est difficile et qu'on n'en retire aucune satisfaction. On n'en fait pas un drame, mais on se console bien vite en se disant ce qui compte, c'est de donner du temps gratuitement à Dieu pour sa seule joie à lui, à condition qu'on ait compris cette attente de Dieu en profondeur. On pourrait objecter, c'est bien beau d'aimer Dieu si purement, mais qui en est capable? La pureté d'intention que nous venons de décrire est indispensable, mais elle ne peut être, bien entendu, pas être acquise complètement dès le début de la vie spirituelle, c'est sûr, parce qu'on a toujours des intentions, on a toujours un désir, c'est bien normal, on a toujours une attente, mais peu à peu, il faut que nous apprenions à entrer dans un abandon où on a de la joie de Dieu, que notre joie d'être avec lui. Et cette joie, si nous ne l'avons pas, notre foi nous dit que désirer la joie de Dieu suffit. Et ça nous met à l'abri de toute attente, et ça nous permet d'entrer dans cette pureté d'intention que l'auteur de ce livre indique comme étant très importante. Il est bien évident que toute personne qui fait un cheminement spirituel se recherche en partie elle-même, en même temps qu'elle recherche Dieu. Ce n'est pas grave, du moment qu'on ne cesse d'aspirer à un amour pour Dieu toujours plus pur. Cela mérite d'être dit pour démasquer un piège fréquent dont le démon, l'accusateur, se sert pour nous inquiéter et nous abattre. Il met en évidence que notre amour pour Dieu est encore bien imparfait et bien faite, et qu'il y a encore beaucoup de recherche de nous-mêmes dans notre vie spirituelle, etc. De telle manière que cela nous décourage. Cependant, quand nous avons cette impression de nous rechercher encore beaucoup nous-mêmes dans la prière, nous ne devons surtout pas nous troubler, mais exprimer à Dieu, avec simplicité, de l'aimer, avec simplicité, notre désir de l'aimer d'un amour toujours pur et désintéressé. Et ça, il faut le formuler en son cœur. Seigneur, je veux t'aimer d'une manière pure et désintéressée. Je ne veux pas me rechercher moi-même. Nous avons déjà formulé ça une seule fois dans notre prière. Est-ce que nous avons déjà abordé l'oraison ou la méditation de cette façon? Ce qui est dit dans ce livre, c'est la grande expérience des mystiques d'Orient et d'Occident. C'est la grande expérience de tous nos pères, ici, redit d'une manière, je trouve, assez pédagogique et simple. Laissons agir la grâce de Dieu. Contentons-nous de persévérer dans la confiance et de supporter avec patience les moments d'agilité que Dieu ne manquera pas de permettre afin de nous purifier de notre amour pour lui. Cela signifie que nous avons, comme dans l'ordre humain, nous voulons bien aimer Dieu, mais on l'aime parce qu'il nous donne des grâces, parce qu'il nous fait goûter sa paix et de la paix la joie, parce qu'il a répondu à nos prières, qu'il nous a donné des signes. Mais vous savez, il y a quelque chose dans notre nature qui est ainsi fait que nous aimons Dieu pour ça. On n'aime pas Dieu, vraiment. Nous l'aimons pour le bien qu'il nous fait. Dieu le sait. Donc Dieu le donne, mais il va nous plonger de toute façon dans des moments d'aridité, et vous savez, les mystiques qui ont connu des nuits de l'âme. Alors nous, on en connaît des petites nuits, des petites misaines, on va dire. Voilà. Ce n'est pas forcément des nuits profondes que les grands spirituels connaissent. Mais nous avons besoin de cela pour que, lorsque Dieu à nouveau se manifeste, à condition qu'on ait persévéré, à condition qu'on ait continué d'observer avec beaucoup de ténacité, justement, ces moments de retrouvailles dans la pratique de nos raisons, eh bien, Dieu va à nouveau se manifester à nous. Mais quelque chose se sera purifié en nous dans cette persévérance. Notre amour se sera élevé. Notre amour se sera dépouillé de certaines attentes et nous aurons la joie de le découvrir autrement. Et il en sera ainsi dans notre vie spirituelle par paliers, jusqu'à ce que cet amour, quand il est décrit par les grands mystiques, soit devenu une vraie contemplation. Je vais terminer par ça. Disons deux mots d'une autre tentation qui peut parfois survenir. Nous avons dit que la pureté d'intention consiste à chercher à plaire à Dieu plus qu'à se faire plaisir à soi. Comprenez que derrière le plaisir à soi, c'est les attentes qu'on peut avoir dans la pratique de la méditation. Le démon espéra alors parfois de nous décourager avec cet argument. Comment peux-tu prétendre, toi pauvre petite créature insignifiante, c'est moi qui rajoute ça, c'est pas dans le livre. Mais vous savez, le démon, il ne se gêne pas avec nous. Hein. Comment peux-tu prétendre que ta prière plaise à Dieu, avec toute ta misère et tes défauts? Parce que lui, il glisse, il savonne bien la planche quand il s'agit de nous faire tomber. Quand il tombe, il regarde, misérable, regarde. Il cherche à nous culpabiliser à mort, il cherche à nous empêtrer dans notre misère. Et longtemps, pour nous le rappeler, là, vous pouvez compter sur lui. Il faut répondre à cela par une vérité qui est le cœur de l'Évangile et que la petite Thérèse de l'enfant Jésus a été chargée par l'Esprit-Saint de nous rappeler. L'homme ne plaît pas à Dieu d'abord par ses vertus et ses mérites. Retenez cela. Dieu ne plaît pas à l'homme d'abord par ses...
L'homme ne plaît pas.
Je suis coutumier du fait, heureusement, de la femme. Et c'est bien, vous suivez. Il y en a 34 qui suivent, donc. Ah, je suis stupéfait. Bon, l'homme ne plaît pas à Dieu d'abord par ses vertus et ses mérites, mais avant tout par la confiance sans borne qu'il a en sa miséricorde. C'est intéressant, ça. L'homme ne plaît pas à Dieu d'abord par ses vertus et ses mérites, mais avant tout par la confiance sans borne qu'il a en sa miséricorde. Est-ce qu'il faut continuer? Tout le monde est fatigué, non? Père Bernard. Le mot confiance.
Oui.
Ah, c'est intéressant. Comment t'appelles-tu, je me suis...
Magnifique. Parce que j'étais justement hier à une personne qui souffre très fort, qui est en charrette, etc. Bon. Et je te dis, parce que je me mets à la place de Dieu, qui nous aime comme ça, dans l'amour. Ça veut être terrible pour lui qu'on n'ait pas confiance dans cet amour et que rien ne peut lui faire plus plaisir que notre confiance. Et je vis avec un mot que j'ai lu dans un livre il y a au moins 700 ans, un roman écrit par un Allemand qui protège une juive, mais à un moment donné, il ne peut plus la protéger et il lui annonce qu'elle va se faire arrêter. Et elle se met à prier. Et le soldat lui dit, mais pourquoi tu pries? Tu pries ton Dieu, il ne fait rien faire pour toi. Et elle lui répond cette phrase extraordinaire, je prie pour consoler Dieu. Mais jamais je n'oublie ces mots. Je prie pour consoler Dieu. Nous ne nous rendons pas compte de la souffrance de Dieu, de la souffrance de cet amour dont on n'a aucune idée, mais qui est là et qui n'arrive pas à se donner. Voilà. C'est pour ça que le mot confiance.
Merci, Monique. C'est vraiment une très belle, un beau témoignage, ça.
Oui.
C'est pour ça qu'il est dit aussi, là, faire la joie de Dieu.
Faire la joie de Dieu.
Voilà. Et c'est des choses très simples.
Oui.
Et c'est vrai que la liberté, en ce moment je donne une série de cours sur la liberté intérieure, tous les matins, en guise d'homélie, 10 minutes. D'ailleurs, on va filmer ces cours et ils seront mis sur un blog ou sur le site, de façon à ce qu'il y ait un enseignement qui soit régulier. Et il y a de liberté que justement dans le désir de donner de la joie. Cette joie, elle commence effectivement par celui qui nous enseigne à donner la joie, à donner de l'amour, c'est-à-dire Dieu. Et ça, c'est une très belle, un très beau témoignage, oui, très, très belle parole. Merci.
J'oublie le nom de l'auteur, je sais qu'il a écrit une Nobel, mais ça m'a fait un
peu. Oui, c'est ça.
Bien, c'est
un mec qui retient pour les mots. Oui, ça m'arrive parfois.
Je trouve que je peux permettre, quand tu disais, c'était pas compris, mais tu parlais de la nuit de l'âme.
Oui.
Et tu disais, les grands saints ont connu ça, et nous, c'est des petites nuits de l'âme. Si je peux me permettre, je pense qu'il ne faut pas être un saint pour connaître de sérieuses nuits de l'âme, comme les saints. Les psychiatres, les psychologues, les psychothérapeutes. Et pourquoi? Parce que je pense que ça peut arriver à quelqu'un de citoyen qui... voilà, sinon ça peut être des référents, je pense, pour ceux et celles qui disent ça.
Les nuits de l'âme sont toujours appropriées à notre nature et là où, on va dire, où nous en sommes par rapport à notre communion avec Dieu. Quand je parlais de la nuit de l'âme des saints, c'est parce que, par exemple, un saint comme Saint-Hugues du Halles chez nous, après 7 ans, alors attention, nous sommes là dans un homme qui, nous sommes en présence d'un homme qui a la foi, qui a fait déjà tout un, on imagine un cheminement, etc. Et ne confondons pas la nuit de l'âme avec les profondes assédies qui peuvent assaillir notre humanité, le désespoir, les états dépressifs profonds, etc. Nous sommes pas, on ne peut pas appeler ça une nuit de l'âme. Restons dans l'ordre spirituel, c'est tout à fait différent. Et notre saint Père Tugdual a connu 7 ans d'une nuit profonde où il avait le sentiment d'un abandon total. Et pourtant, il a continué de prier, il a continué il n'a pas étouffé cette flamme qui était en lui, mais que certainement l'Esprit Saint et la grâce de Dieu permettaient, qu'elle soit entretenue. Et au terme de ces 7 ans, mais il y a eu une purification secrète de sa nature. Il y a eu une purification secrète qui est de l'ordre de ce que ce livre nous enseigne aujourd'hui. Et il a connu, et là on peut parler de sainteté, parce que on n'est pas dans l'ordre psychique là seulement. On n'est pas dans l'ordre humain, privé de la lumière de l'espérance, accablé par les blessures, accablé par tout ce qui peut écraser, nous écraser parfois. Nous sommes dans ce qui concerne la vie mystique. Et notre Saint-Père Tugdual a connu 30 jours et 30 nuits baignés d'une lumière taborique. C'était la lumière de Moïse qui est descendu du Mont Sinaï. C'était la lumière comme les saints Saint-Séraphin de Sarov, par exemple, qui manifeste cette lumière de l'Esprit Saint à son disciple Tobilo. Et on est dans un tout autre ordre des choses, et il faut que nous acceptions que ce soit différent. Et quand je disais qu'il y avait des différences de nuit de l'âme, c'est ce que je voulais dire. Nous allons connaître des nuits de l'âme qui correspondent à notre capacité à les supporter. Je continue d'évoquer ça dans la vie spirituelle. Je ne parle pas dans la vie humaine.
Il y a des psychiatres qui ont un sens spirituel.
Non, mais je ne suis pas...
Pardon. Si, il y a des psychiatres...
Oui, je comprends.
Non, mais ils sont capables de jauger la différence.
Oui.
Je crois qu'on peut définir, moi, ce que j'ai compris, mais peut-être que mais la nuit de l'âme, c'est fondamentalement avoir le sentiment que Dieu n'est plus là. On ne le sent pas qu'il n'est plus là, tout en continuant. Il
oui,
suffit
tout
que la tête de Dieu, elle est morte comme ça, dans la vie de l'âme. Saint François aussi. Ils n'ont pas donné le tabac à notre connaissance, peut-être 5 minutes avant. Mais ce que je veux dire, c'est un simple citoyen qui a eu quand même une vie, qui a une vie spirituelle, pour moi, peut faire une vie de l'âme.
Je n'ai pas dit le contraire, c'est pas dit ça.
Ah oui, j'ai l'air de parler de petites nuits.
Eh oui, je sais quand même, mais ça, c'est pas moi qui l'invente. Pardonne-moi, Cécile, mais comme je ne connais pas grand-chose, je ne me fais que la voix de ceux qui nous
ont
profité.
Non, mais moi, j'ai lu d'autres choses, alors il faut peut-être discuter sur les sources.
Non, je ne crois pas que ce soit l'objet, parce que là, on va s'enfoncer dans quelque chose. Je ne crois pas que... d'abord, je respecte ton opinion.
C'est
ça. Mais je pense que... il y a forcément, parce que Dieu ne nous éprouve pas au-delà de nos forces. Et lorsque nous sommes au début de la vie spirituelle, il est évident que nous ne pouvons pas supporter des épreuves intérieures, qu'on peut appeler nuit de l'âme, et que des saints qui ont, eux, une grande expérience, justement, dans cette communion avec Dieu, on ne peut pas comparer cela. Donc, il y a là une échelle de valeur, mais au sens mystique, que nous devons accepter parce qu'elle est dans l'ordre des choses, et ne cherchons pas à faire des comparaisons qui sont toujours difficiles à faire. Donc, ce que je dis, je veux en rester simplement là, c'est que, alors dans ce cas, je me permettrai moi de parler de moi en disant, mes petites nuits de l'âme que j'ai connues, et que le Seigneur a bien voulu permettre, eh bien, m'ont permis d'avancer, mais n'ont pas été aussi durables que cela. J'ai connu d'autres moines qui ont parlé de leur expérience, et ça m'a permis de comprendre qu'effectivement, j'en connaîtrai d'autres, de nature différente, parce que telle est la loi que l'on trouve quand on enseigne la théosis, c'est-à-dire la vie intérieure. Il me semble que c'est ainsi. Voilà. Je m'arrête là. Maintenant, toute âme qui souffre mérite une compassion, quel que soit l'état, qu'elle soit...
On peut ne plus rien ressentir, mais continuer à croire.
Voilà. Oui, voilà. Et c'est difficile de continuer, d'avoir au fond de soi-même plus de repères, comme je le disais, quand les grâces, on a le sentiment d'être abandonné. Et Dieu sait que nous allons traverser cette épreuve, mais il sait aussi, il la permet parce qu'elle est nécessaire. Mais il ne permet pas que la flamme intérieure s'éteigne. Sainte Thérèse a connu ça, mais tous les saints l'ont connu. Hein. Tout le monde n'en a pas parlé de la même manière, mais d'une manière assez générale, oui. Mais en même temps, cette foi les a permis de continuer et de continuer de méditer, de réciter les offices, de vivre, je dirais, normalement, avec les sentiments, mais les sentiments parfois d'abandon. Relisons par exemple Saint Jean de la Croix ou Saint Siméon le nouveau théologien dans ses catéchèse, lorsqu'il parle, justement, il a une très très belle prière, où il parle de... c'est le cantique des cantiques, hein, quand la bien-aimée cherche son bien-aimé désespérément. Et il y a, dans ce Saint-Démon nouveau théologien, qui recherche, qui supplie Dieu, il est perdu, et voilà que soudain, à nouveau, le bon pasteur réapparaît, il exulte de joie, il le prend sur ses... le bon pasteur le prend sur ses épaules, etc. Et donc, à travers un style poétique. Mais ça, c'est un des aspects. Mais je ne souhaitais pas parler de ça, parce que c'est un... Je pense que c'est un quelque chose de très particulier. Je préférais qu'on reste dans le cadre de ce que nous avons médité, à savoir, quand on commence la prière, d'oraison particulièrement, eh bien, il y a cette... trois premières choses que nous avons vues, qui est la foi, la confiance, et nous avons vu la persévérance, la fidélité persévérante, et puis nous venons de voir cette pureté d'intention. Ces trois premières choses que nous avons établies sont vraiment essentielles dans notre vie de prière. Il y a un autre chapitre qui suit, c'est l'humilité.